Chapitre 14. Tout le monde voulait la mort du roi de France, mais il fallait qu'il mourût à l'heure fixée. Le vieux père italien était revenu dans la chambrette de la rue Notre-Dame. Il était assis auprès de la Mappemonde et il semblait plus courtois qu'il ne l'avait été l'autre jour. Il disait les choses comme elles lui venaient à l'esprit, rapidement, calmement, avec intelligence. L'Espagne la voulait pour ce qu'elle allait devoir mener une guerre à laquelle elle n'était pas prête, car les armes françaises étaient alors bien plus puissantes que celles de Philippe III. Le ministre Sully voulait faire l'Europe à sa façon, et nul ne pouvait l'en empêcher. Cette affaire de Juliet n'était qu'un prétexte, toute la coterie des Florentins la voulait, cette Leonora Dori Seconcini, qu'Henri empêchait de tout régenter à leur façon. Les d'Épernon, Verneuil et quelques autres la voulaient pour mille raisons plus ou moins avouables. La reine la voulait aussi, sans oser se l'avouer peut-être. Elle se voyait détrônée par cette jeune Montmorency dont le roi était fou et dont peu se fallut qu'elle ne devint l'Hélène de notre temps à cause d'une nouvelle guerre de Troie. Vous ne citez pas la Compagnie de Jésus? Croyez-moi ou non, c'est encore notre ordre qui avait le moins d'intérêt propre à la mort du roi. Et pourtant, les jésuites la manigançaient aussi, vous le savez, c'est bel et bien un jésuite qui a le premier offert 50 000 écus pour tuer le roi. Vous parlez du père Alagon, l'oncle du duc de Lerne, il a été dénoncé. Sans doute, mais cela n'est rien encore. N'étais-je pas moi-même porteur du même ordre, transmis pour la plus grande gloire de Dieu, de votre maison de Madrid à celle de Paris? N'êtes-vous pas ici pour cela? Parce que vous pensez que je l'ai encore et que cela peut gêner la compagnie. On m'a dit que vous défendiez la vérité quant aux origines du père Lainès. La cacheriez-vous en ceci? Le jésuite soupira. Certains des nôtres haïssaient Henri, d'autres l'aimaient, et chacun a agi selon sa conscience. Si notre maison d'Espagne a été mêlée à cette affaire, elle l'œuvrait pour son roi et pour éviter une guerre meurtrière entre chrétiens. Je soupçonne certains de vos pères, comme ce Gontier à Paris, d'avoir nourri de moins nobles pensées. Je lui ai parlé lors de mon premier voyage en France, en un temps où il n'était pas question de guerre encore. Il me semblait surtout animé par la haine. Nous ne sommes que des hommes, et le roi n'avait guère le comportement d'un chrétien. C'était à la cour que puterie, maquerage et sodomie. Mais pourquoi vous en prendre toujours aux jésuites? Vos petits amis, les frères, ne sont pas plus innocents. Que voulez-vous dire? Ce n'est pas médire que répéter ce qui s'est dit au procès et que chacun sait. Par deux fois, Ravaillac s'est confessé à des cordeliers, demandant si c'était péché que d'être tenté de tuer le roi, et s'il fallait en demander pardon à Dieu. Croyez-vous que l'un d'eux ait dénoncé le complot et même tenté de dissuader l'assassin? Me direz-vous, en fin de compte, qui a tué Henri IV? J'aimerais ne pas mourir sans le savoir. C'est ce Ravaillac, bien sûr. Mais ne vous moquez pas, qui l'a armé? Et pourquoi vous le dirais-je, même si je le savais? Je vous ferai moi aussi une confidence. Et ce disant, le vieil homme jetait un coup d'œil à l'adresse des trois rois sur le mur de la chambre. Le vieux jésuite sourit, resta un instant pensif, puis se décida. Le coup est venu du duc d'Épernon et de madame de Verneuil. Ils conspiraient depuis plusieurs mois et connaissaient l'assassin qu'ils avaient hébergé, encouragé. Maintenant, ce Ravaillac était un fou, un exalté, imprévisible et incontrôlable. Rien ne permettait de croire qu'il réussirait. À la réflexion, c'est même étonnant qu'il ait pu tuer le roi à s'y prendre comme il l'a fait. De sorte que si Ravaillac avait manqué son coup, un autre aurait frappé plus sûrement à sa place. Assurément, le roi Henri ne devait à aucun prix rejoindre son armée, vous le savez, puisque vous portiez des ordres en ce sens. Ordre que je n'ai pas remis. Que serait-il donc advenu si l'assassin avait échoué? Mais, en ce cas, vous auriez remis votre message, naturellement. D'ailleurs, vous n'étiez pas le seul coursier. Dans ce genre d'affaires, rien n'est laissé au hasard. Et pourquoi le duc et la marquise voulaient-ils la mort du roi? D'Épernon était un vieil aigri, le fils d'un notaire que Henri III avait jadis élevé, mais à qui son successeur avait coupé les griffes. Quant à la Verneuil, vous savez qu'elle a été la maîtresse du roi de France. La seule, entre cent peut-être, a vraiment mérité ce nom, car ils ne pouvaient vivre l'un sans l'autre, ni d'ailleurs l'un avec l'autre. Henri lui avait promis le mariage alors même qu'il arrangeait ses noces avec Marie de Médicis, et leur vie n'a été ensuite qu'une suite de brouilles, d'exil et de réconciliation. Allez savoir ce qui se passe dans la tête de tels gens. Et ils n'ont jamais été inquiétés. Qui avait intérêt à le faire? Si, une seule personne a essayé, une dame Comment, jadis servante chez Verneuil. Elle avait des preuves, des lettres envoyées d'Espagne, des conspirations surprises dans les églises. Même les juges n'ont pu la convaincre de faux témoignages, malgré toute leur habileté. Elle a échappé au gibet, mais a fini ses jours murée dans une prison. Un autre homme a tout compris, le vieux Arlois, le premier président du Parlement de Paris. Il a interrogé tout le monde comme il l'entendait et justement conclu que Dieu lui avait réservé de vivre en ce siècle pour voir et entendre des choses qu'il n'eût jamais cru voir ni ouïr. C'est un peu notre cas à tous deux, n'est-ce pas? Mais il était bien vieux, 80 ans, c'est une somme de sagesse, mais aussi d'infirmité, croyez-en mon expérience. Le père Sacchini avait cet âge peut-être, mais c'était presque inconvenant de l'entendre parler ainsi alors qu'il bondissait pour aller de sa chaise à la fenêtre, sautillant presque du tableau au lit où gisait le gros chanoine. De sorte que ce président n'a rien dit? C'est un sage, vous dis-je. D'ailleurs, on l'a forcé à vendre sa charge à peu de temps de là. Il a été remplacé par le président de Verdun, un de nos anciens élèves. Les vrais assassins sont donc restés impunis. Ils répondront de leurs actes devant Dieu. Il semble d'ailleurs que le châtiment divin ne se soit pas fait attendre sur eux et sur les leurs. Tenez, la fille d'Henriette de Verneuil, bâtarde donc d'Henri IV, a épousé, voici une douzaine d'années, le fils du duc d'Épernon. Eh bien, ce mariage maudit s'est terminé par l'assassinat de la femme par le mari. Et vous aviez aussi, je crois, quelque chose à me confier. Oui, cette toile qui semble tant vous intéresser. Eh bien? Eh bien, elle ne vous sera d'aucune utilité. C'est une bien innocente peinture faite sur une bonne toile blanche, sans message ni secret d'aucune sorte. Ah, je m'en doutais un peu, mais où est la vraie, celle que vous avez remise au père Canot? Vous l'avez cachée, n'est-ce pas? Ah, vous avez raison, c'était plus prudent que de la laisser chez vous. Elle n'existe plus. Elle a brûlé, voici bien longtemps. Ah, dans l'auberge de Villers-Cotterêts? Ah, vous savez cela aussi? Non, je l'ai jetée au feu, moi-même, au soir du 15 mai 1610, après en avoir lu le secret. Le vieil Italien sourit. Ah, ce n'était pas mal trouvé. Somme toute, cette astuce vous a sauvé la vie. C'était bien là mon dessein. Non, décidément, ça n'était pas mal trouvé. À votre place, je n'aurais pas fait autre chose. Eh, que voulez-vous, mon père, à force de fréquenter les jésuites? Je rentrais assez tard à l'hôtel de la Pomme d'Or. Mes pas m'avaient d'abord mené en certains mauvais lieux dont je gardais un souvenir ému et que le deuil général avait épargné, après quoi je ne pus résister à une autre tentation qui prit la forme subtile d'un fumet de volaille rôtie. On ne trouve qu'en France de ces rôtisseries peuplées de gras chapons et d'odorants poulets dont la peau grésille sur la broche dans la lumière d'un feu à l'image de l'enfer et qui sont une perpétuelle incitation au péché de gourmandise. Après tout, mon voyage avait été assez éreintant pour que je puisse m'offrir quelques compensations. La course folle et les mauvais repas avalés sur le pouce avaient trop longtemps été mon ordinaire, et j'en étais arrivé à tant flotter dans mes habits qu'à l'estime je pensais avoir perdu à tout le moins 15 livres de poids. Pour le reste, je n'avais pas voulu que le volatil immolé à mon appétit arrivât desséché en son état ultime, et j'avais estimé que le noyé d'eau n'était pas rendre à son sacrifice le meilleur hommage. Aussi l'avais-je assez copieusement arrosé de joli vin d'Arbois. L'aubergiste me regarda d'un drôle d'air que je mis sur le compte de ma démarche incertaine et d'un visage que je sentais illuminé. Il prit la lampe et me précéda dans l'escalier que je m'appliquais à monter d'un pas mesuré. On y avait allumé un bon feu, et je lui glissai une bonne pièce pour cette attention. « Monsieur l'abbé, me dit-il en hésitant, je dois vous dire, des gens sont venus ce soir pour vous. Ils ont emmené vos laquais. » J'avais en effet logé mes deux Italiens dans les écuries en attendant d'être fixés sur leur sort et sur le mien. En un instant, je fus dégrisé. « Des gens, dites-vous, quelle sorte de gens ? Ah, je ne sais, ils étaient cinq, armés d'épées. Sont-ils montés ici? Les avez-vous laissés entrer? Le brave homme eut un air navré. Jetant un œil sur mes affaires, je vis qu'elles avaient été dérangées. Cependant, le tableau des trois rois était toujours sur le grand meuble où je l'avais mis, près de mon épinette. Ont-ils dit qu'ils reviendraient? Ils n'ont rien dit. Il fallait me décider sans tarder. Tout était dans cette peinture. De là-haut, les trois rois semblaient presque me narguer avec leurs faux airs bonasses. Je résolus d'en avoir le cœur net. « Montez-moi de l'eau-de-vie. »« De l'eau-de-vie ? » fit l'hôtelier interloqué, puis souriant. « Ah bon, je préfère que vous le preniez ainsi. » Quand il fut parti, je fermai la porte, empoignai la peinture et me mis en devoir d'en frotter la surface délicatement d'un drap de lit imbibé d'eau-de-vie. La couleur partait facilement, elle n'était manifestement pas faite de ces savants mélanges que les peintres préparent en secret pour donner et conserver éclat à leurs œuvres. Tour à tour, Melchior, Balthazar et Gaspard disparurent, effacés à jamais, réduits sur le drap à de grandes taches sombres. Sur la toile, comme je m'y attendais, était apparu à mesure un long message écrit d'un encre noire sur lequel l'alcool n'avait pas prise. Je le parcourus rapidement. Ce n'était nullement un plan de guerre, comme on me l'avait dit, mais plutôt la trame d'une conspiration, comme je le craignais. Aucun nom n'y figurait clairement. Il était question de l'impie et de l'italienne, terme sans doute qui désignait le roi et la reine de France. D'autres n'étaient nommés que par une majuscule, et il fallait être plus au fait que moi des affaires publiques pour les deviner tous. Beaucoup de choses restaient obscures en ce message, et je n'étais pas en état de faire de l'exégèse. Certains passages cependant me frappèrent, que j'ai gardés en mémoire. Il fallait faire ce qui avait été décidé, c'était la volonté de sa majesté et plus grande gloire de Dieu l'exigeait. Il ne fallait pas brusquer les choses qui ne devaient s'accomplir que quand tout serait prêt pour assurer la place à l'italienne. Tout devait être fait cependant par tout moyen et à tout prix avant que l'impie rejoignît l'armée. On pouvait donner foi aux assurances de V, était-ce V le roi, le ministre, selon lesquelles la France ne poursuivrait pas la guerre, et si S, Sully, s'y opposait, il ne pouvait manquer d'armes fortes pour lui faire subir le sort des hérétiques de son espèce. Il fallait se méfier de V et E, qui étaient de sottes gens capables de tout faire manquer. Il fallait s'en servir, mais ne leur faire nulle promesse et surtout rien mettre en leurs mains qui pût compromettre l'Espagne. S'ils faiblissaient en leur résolution ou échouaient dans leur projet, il faudrait en tout cas y suppléer à temps et par tous les moyens. La compagnie ne pouvait tolérer qu'un des siens s'oppose à ses intérêts et C, Coton, devait être rappelé à une aveugle obéissance. Figurait aussi un relevé des sommes qu'il y avait lieu de donner à tel ou tel pour prix de ses services. Et enfin, cette recommandation qui me fit blêmir, on veillerait à se défaire à temps de tous ceux qui auraient appris des choses dont ils n'avaient pas à connaître, au nombre desquels, au besoin, le porteur des présente. C'était mon arrêt de mort que je lisais là. Sans réfléchir, je déchirai la toile, en brisai le cadre et les jetai au feu. Ils n'étaient pas brûlés encore quand je partais dans la nuit, abandonnant mes bagages, à l'exception d'un sac où j'avais mis quelques affaires qui m'étaient tombées sous la main et, Dieu sait pourquoi, ma chère vieille épinette. Pauvre de moi, si douillet, si attaché à ces petits agréments qui font ici-bas la douceur de la vie. Tantôt, je faisais un sort à une volaille dodue qui n'avait sans doute jamais espéré si douce fin dorée à point brillante de graisse. Je me réjouissais à la perspective d'une couche molle et voilà que j'étais tout à coup jeté à la rue comme un proscrit avec sans doute des hommes en armes sur mes talons. J'en ris aujourd'hui, mais je crois n'avoir de ma vie connu pire moment. À peine dehors, tout mon corps protesta. Je fus pris d'une crise d'étouffement si forte qu'elle me jeta par terre. Je me vois encore gisant avec mon pauvre bagage dans l'encoignure d'une porte, tentant de reprendre mon souffle, m'inquiétant des ombres passant dans la nuit et se détournant de moi comme d'un pestiféré. Je n'ai plus jamais depuis regardé de la même façon ces misérables qui couchent à la rue et exposent avec lassitude leurs infirmités à la charité des passants. Après ce qui me sembla une éternité, je me levai et partis au hasard, ne pensant qu'à m'éloigner de cette auberge où l'on me chercherait. Je passai la Seine, marchai longtemps et perdis bientôt tout repère. Je ne connaissais Paris que par les lieux où j'étais passé et je n'en retrouvais aucun, trompé que j'étais par la nuit. Après 2 heures peut-être, je m'abattis au pied d'un arbre dans ce qui pouvait être un jardin. La lune que je voyais courir dans les nuages éclairait par moments le faubourg où j'étais. Le sol était pentu, les maisons rares. Non loin cependant se devinait la ligne d'un long mur et un petit clocher, sans doute quelques maisons religieuses. Je tentais de reprendre mes esprits, de réfléchir calmement à la situation. Bientôt une pluie fine se mit à tomber, du moins garderai-je les idées claires. J'étais donc perdu, recherché sans doute, ne sachant où aller, ni maintenant, ni plus tard. Du moins, une chose était-elle sûre, j'avais touché le fond, et les choses ne pourraient qu'aller mieux. Non, pourtant, pas tout à fait. J'avais encore une chose avec moi que n'ont pas les miséreux, de l'or. De l'or même assez pour vivre assez longtemps. Je resserrai le manteau sur ma soutane, me recroquevillai, serré sur mon bagage, espérant m'endormir jusqu'au jour. Mais le moindre bruit de la nuit m'alarmait. Il me semblait voir des ombres approcher. Ce mouvement dans les buissons était-ce vraiment le vent, et non plutôt des gens qui m'avaient suivi, ou des malandrins flairant l'aubaine? Et cet aboiement de chien qu'on entendait tout à l'heure, ne s'était-il pas rapproché? Finalement, transi de froid et les membres endoloris, je me levai et repris mon errance d'un pas vif pour me réchauffer. J'allai ainsi 1 heure encore, puis je devinai au levant comme une légère clarté. Des nuages de ce côté passèrent du noir à une sorte de gris sale et sombre. On entendit çà et là le son grêle d'une cloche sonnant l'aude. Je fis un bond surprise quand l'une d'elles soudain tinta à 2 pas de moi sur la gauche. Je vis de ce côté de la lumière et me mêlai sans réfléchir à quelques silhouettes qui entraient dans une chapelle. Quelques moines entonnaient un cantique, la voix rauque, grasse encore de sommeil. Je m'assis sur un banc dont le bois poli et sec me fit sous les doigts une impression de chaleur. Je m'endormis comme une masse. 1 heure, 1 jour, quel temps s'était-il donc écoulé quand cette main me secoua rudement l'épaule, me ramenant à la réalité? Mon père, il ne faut pas dormir là. J'ouvris un œil. Un moine était là, immense, devant le banc où je m'étais étendu de tout mon long. Il avait entrepris de me réveiller, et, en juger par son air, la chose n'avait pas dû être aisée. Levez-vous, c'est l'heure de la messe, il faut faire place. Je m'assis et vis avec quelque confusion un cercle de fidèles qui me regardaient en riant. Ah, je devais avoir l'air beau avec mes airs de chien mouillé, ma mine défaite et mes habits crottés. Ça ira, mon père? Merci, vous êtes bien bon, j'écouterai donc la messe, d'ailleurs je suis venu pour cela. Sans doute, et pour vous y préparer, vous avez entendu d'affilée l'aude prime tierce. Vous deviez être bien absorbé par vos dévotions, car on ne vous a pas vu ouvrir l'œil depuis l'aube. Il ne disait pas ça méchamment, et je pris parti d'en sourire. Je suivis donc la messe, priant ardemment Dieu qu'il me sortît de ce guépier où j'étais. Le salut me vint quand, battant ma coulpe, je sentis le scapulaire que j'avais sur la poitrine où j'avais mis la lettre de recommandation de Fray Jeronimo. C'était à coup sûr le moment de m'en servir. Si je ne faisais maintenant, jamais je ne le ferais. Après l'office, je m'informai donc de la maison des frères mineurs. Ce n'était pas si simple, à vrai dire. Rien n'est plus compliqué que cet ordre, d'autant qu'en ce pays, on nomme également franciscains ou cordeliers les conventuels qui se réclament de la règle ancienne et qu'on a interdit tant en Espagne qu'aux Pays-Bas. Enfin, quand je m'enquis de l'établissement principal de ces religieux à Paris, la chose parut plus claire. Ah, c'est loin d'ici, me dit-on, c'est même exactement de l'autre côté de la ville, sur la rive gauche, tout contre le vieux rempart. Peut-on m'y conduire? Je paierai s'il faudra. Et je fis donc, dans une petite voiture fermée, une grande partie du chemin que j'avais parcouru la nuit même en sens inverse et avec bien plus de détours. La maison des franciscains ne se trouve somme toute pas bien loin de celle des jésuites, cela ne me rassura qu'à moitié. Elle occupe une sorte de triangle dont la pointe est coupée par l'église Saint-Côme, qui ne lui appartient pas, et dont le grand côté, long de 400 ou 500 pieds, va s'appuyer sur un mur de la ville antique et fort ruiné, qu'on dit avoir été construit par un roi des temps anciens nommé Philippe Auguste. J'entrai par l'église, longue nef sans transept dont le mur ferme le domaine sur une bonne longueur du côté du levant. Je demandai à voir le supérieur. Soit que les disciples de saint François soient d'un accès plus facile que ceux de saint Ignace, soit que ma mine eût quelque chose de tragique qui imposait l'urgence, on ne me fit pas attendre et on m'introduisit chez celui que je voulais voir. L'homme ne payait guère de mine, quoiqu'il fût certainement un personnage considérable, gouvernant à Paris l'ordre le plus nombreux. Il avait pour nom frère François, ce qui est peu original pour un disciple de ce saint. français de surcroît. Rien dans l'habit, du reste, ne le distinguait du plus modeste de ses frères, et il avait en tout l'apparence de ces bons gros moines qui sont toujours un peu la risée du peuple. Chauvre presque entièrement, il n'avait pour ainsi dire pas de cou, le bas de son visage semblant fiché d'une pièce sur ses épaules. Il me salua et m'observa avec curiosité, tandis que je sortais de ma pochette de cuir la lettre cachetée que m'avait remise à Madrid mon ami franciscain. Il la lut rapidement. « Mon père, me dit-il, je ne sais à quel titre vous êtes porteur de ceci. Sachez en tout cas que je suis à votre service et avec moi tous ceux de mon ordre en cette ville et ailleurs. »« Ah, merci de tout cœur. Je crois en effet que j'aurai besoin de votre aide et de votre conseil. Nous verrons cela, mais avant cela, vous avez l'air épuisé. Avez-vous pu vous loger, manger ?»« Enfin, je n'ai pu faire ni l'un ni l'autre pour les raisons que je vous dirai pas. Vous n'avez rien à me dire que vous ne vouliez. Cette recommandation de frère Géronimo vous en dispense. Vous le connaissez donc ?»«
Sans doute, je le connais depuis 20 ou même 30 ans, mais là n'est pas l'important. »
Ceci, et il brandissait le document frappé du sceau de son ordre, ceci nous fait obligation de vous aider, qui que vous soyez et où que vous vous trouviez. Je vais donc vous expliquer la situation où je suis. Et encore une fois, que les choses soient claires, vous n'avez nul compte à me rendre, et notre secours vous est acquis sans cela. Je vous entends bien et vous remercie encore, mais j'avoue que j'ai plus encore besoin de vos conseils. Certes, j'aimerais passer une bonne nuit, et je ne serais pas plus mal si ma soutane était moins crottée, mais mon malheur vient surtout de ce que je ne sais que faire ni où aller. Je suis étranger en ce pays.
Ah, vous n'êtes donc pas français ?
Non, j'arrive d'Espagne, et je suis natif du sud des Pays-Bas, d'où vient que votre langue est la mienne. En un mot, il s'est passé de graves choses ces jours-ci à Paris, et je crains d'y avoir été mêlé à mon corps défendant par le fait des jésuites.
Des jésuites, diable ! Mais alors vous parlez de l'attentat contre le roi ?
Précisément. Et je lui expliquais longuement mon rôle de messager, les circonstances dans lesquelles on me l'avait imposé, et ce que j'en avais découvert. Cela me faisait du bien de partager le poids de choses si lourdes. Le grand pécheur qui avoue ses fautes au confesseur doit se sentir ainsi soulagé, et ce n'est pas là sans doute le moindre rôle du sacrement de pénitence. Je ne me sentais plus tenu par un quelconque secret. Mon premier souci était de me sauver, sans aucun égard pour ceux qui m'avaient trompé. Si je comprends bien, vous portiez l'ordre d'assassiner le roi, mais ce forfait fut accompli avant que vous ne le remettiez. C'est singulier.
En effet, et je vous jure pourtant que les choses se sont bien passées ainsi.
Et vous affirmez donc que la compagnie de Jésus en est la commanditaire, ce qui se dit en rue serait donc vérité?
La compagnie et l'Espagne, oui.
Il est bien regrettable que vous n'en ayez pas conservé les preuves.
Il n'en reste que les cendres, en effet, c'est que j'ai la faiblesse de tenir à ma peau et cette toile était mon arrêt de mort.
Hein, êtes-vous sûr que c'était là bon calcul?
Mais que voulez-vous dire?
Il me semble que si vous disposiez encore d'un document si gênant, on accorderait quelques prix à votre personne, ne fût-ce que pour le récupérer. Si au contraire vous ne l'avez plus, on a tout intérêt à vous faire disparaître et à effacer ainsi avec vous toute trace de la compromission.
Je pâlis. Le franciscain avait évidemment raison, et j'avais sans doute agi légèrement en livrant aux flammes ce qui restait des trois rois dont j'avais percé le secret. Mais il me vint une objection.
Ceux qui me cherchent ignorent quelle forme avait ce message. Ils sont venus dans ma chambre, ils ont fouillé mes affaires, mais ils n'ont pas touché au tableau.
Ils l'ignorent peut-être aujourd'hui, mais ils le sauront un jour. On n'envoie pas de tels ordres sans s'assurer qu'ils sont bien arrivés, d'autant que le coup semble venu d'ailleurs.
À moins évidemment que cet ordre soit arrivé par d'autres voies ou qu'on l'ait anticipé.
Laissez-moi m'informer, réfléchir à tout cela, et en attendant reposez-vous et ne sortez pas d'ici.
Je réponds de votre sûreté tant que vous ne franchirez pas les murs de ce couvent.
Si cela ne vous gêne pas, vous prendrez notre habit, on le remarquera moins.
Si vous me sortez de là, je fais le vœu de n'en porter d'autres au jour où l'on m'enterrera.
Le plus tard possible, n'est-ce pas ?
Je pris donc la robe des petits frères et vécus avec eux quelques jours.
Leur maison à Paris est plus grande encore qu'à Madrid, et il s'y fait grand mouvement de moines qui viennent de tout le royaume. Même si je trouvais là une sûreté inespérée, je me rendis compte assez vite que j'étais assez peu fait pour être moine, fût-ce franciscain. Ces gens vivent rudement, mangent mal. La paillasse qui m'avait paru douce le premier jour au regard des jardins humides et des bancs d'église me sembla bien dure au suivant. Mais surtout, il me sembla que beaucoup parmi les religieux étaient un peu simples d'esprit, soit que cette faiblesse les eût prédestinés au rassurant secours de la vie monastique, soit que vivre de la sorte leur eût un peu affaibli l'entendement. On ne semblait guère y cultiver la musique qui se bornait à des messes fort mal chantées. Je me laissais un jour aller à jouer sur l'orgue de l'église qui était fort faux et couvert de poussière. Cela causa dans la communauté un tel émoi que je ne le fis qu'une fois. Le frère François me fit appeler après m'avoir laissé seul toute une semaine. « Monsieur Chanoine, me dit-il, j'ai pour vous trois nouvelles qui ne sont pas des meilleures. »« Ah, dites. »« La première, c'est qu'on a continué à vous chercher. »« La seconde, qu'on cherche aussi maintenant certaines peintures des rois mages. » »« Et la troisième, plus grave, qu'on sait où vous êtes. » »« Les deux premières nouvelles ne sont pas étonnantes, mais comment m'a-t-on trouvé ici ?»« Je n'en sais rien. » Mais toujours est-il que des gens ont questionné certains de nos frères, des gens qu'on voit rôder près de notre maison à toute heure du jour et de la nuit. Vous ne pourrez rester ici bien longtemps. Savez-vous qui ils sont? Pas davantage. Cela n'a d'ailleurs guère d'importance, car les gens de la reine, le parti espagnol, les jésuites et les princes, tout le monde semble s'entendre pour qu'on ne sache jamais la vérité sur la mort du roi. Ce Ravaillac n'a même pas été questionné sérieusement. Il paraît aussi que les petites gens qui avaient eu vent d'un complot de leur maître ont été mis au secret par les juges même chez qui ils avaient voulu témoigner. Et que dit le peuple? Il semblait fort agité l'autre jour. Ah, le peuple ne dit plus rien, il se contente de défiler devant le cercueil, et ce matin même il admirait fort les musiques que Marguerite de Valois faisait chanter à la mémoire de son époux de jadis. Et que puis-je faire? Ah, c'est à moi de vous poser cette question, où voulez-vous aller? Mon Dieu, je n'en sais rien. Je ne puis évidemment rentrer en Espagne, je suis pourchassé en ce pays, et sauf à m'enterrer sous un faux nom dans quelque monastère perdu où je serai inconnu, je ne vois guère qu'une route à prendre, c'est celle de mon pays. Du moins n'y ai-je pas d'ennemis, mais au contraire, famille et maison. Comptez-vous là sur de solides appuis? Cœur, l'infante Isabelle m'a sans doute oublié, et le seul prince qui m'était acquis est en disgrâce. Y avez-vous une position en vue qui vous protège? Ah, pas du tout. Ah, vous n'y serez donc pas plus en sûreté qu'ailleurs. Les jésuites sont aux Pays-Bas plus puissants qu'ici, et les archiducs ne peuvent rien refuser à leurs frères et cousins d'Espagne. Eh bien, mes jours sont donc comptés, dis-je désespéré, les larmes me venant aux yeux à mesure que l'impitoyable raisonnement du frère François me coupait tout issue. Espérez en Dieu, j'irai trouver le père Coton, je négocierai. Ah, je n'ai rien négocié. Si, mais le tableau. Mais je ne l'ai plus, vous le savez. Vous m'avez reproché de l'avoir brûlé. Sans doute, mais ils l'ignorent. Rien ne vous empêche d'en faire un autre. Ils savent qu'il s'agit de trois rois. Je doute qu'ils connaissent mieux que vous la couleur de leurs habits et la façon du peintre. Bah, vous avez de ces idées. Cela les fera-t-il renoncer à me voir mort? Cela leur donnera du moins une raison de vous craindre vivant, si vous leur échappez. Pour le reste, je verrai. Puis-je au moins promettre votre silence? Je serais muet comme une carpe. Je n'ai été mêlé à tout cela que malgré moi, et je ne veux qu'une chose, c'est de ne plus en entendre parler. Le frère François me revint le même jour. Manifestement, il avait chez les bons pères d'autres entrées que moi, et on ne l'avait pas laissé mariner dans un parloir. Quand je lui demandais comment les jésuites avaient pris ce marchandage, il éclata de rire. « Allons, vous me voyez débarquer à la compagnie et dire au père Coton, confesseur du feu roi, « Mon cher, nous savons que vous avez fait tuer Henri IV, l'abbé Dubois avait raison, nous en avons la preuve, laissez rentrer chez lui ce brave chanoine flamand, et nous n'en dirons rien. » Qui est cet abbé Dubois? Le curé de Saint-Eustache, qui a osé les accuser en chair. Non, évidemment, je ne pouvais pas parler ainsi au père Coton, d'autant que si un jésuite est innocent en cette affaire, c'est bien celui-là. Non, je suis allé lui faire part personnellement de ma sympathie dans la perte de son royal pénitent. Je l'ai assuré du soutien de notre ordre, qui n'accorde évidemment aucun crédit aux méchantes accusations dont le sien est l'objet. Et ce n'est qu'en le quittant que je lui ai recommandé un nommé Dufond de mes amis, qui craignait, à tort sans doute, de s'être fait mal voir de la compagnie. Et vous ne lui avez donc pas parlé des trois rois? J'ai seulement dit que vous étiez un brave prêtre dont la seule distraction des affaires divines était l'amour des arts, musique et peinture. Il m'aura compris. Je ne puis m'empêcher de rire. Décidément, les jésuites ne sont pas ce qu'on croit. Je le reverrai. Il n'a pas pouvoir d'engager les siens, pas plus que moi d'ailleurs, s'il demande quelque chose en contrepartie, ce qui ne serait pas étonnant. Ah, je ne vous remercierai jamais assez. Vous ne me devez rien. J'ai fait vœu d'obéissance à mon ordre et c'est lui qui vous assure une protection dont j'ai vu peu d'exemples. Plusieurs jours s'écoulèrent encore, pendant lesquels un religieux qui avait quelque goût pour l'huile et les pinceaux me refit les trois rois mages les plus conformes qu'il put aux souvenirs que j'en avais. Rubens à Bruxelles pouvait dormir tranquille, il ne risquait pas de voir sa réputation éclipsée par le talent de ce pauvre moine. Malgré les couleurs trop éclatantes de leurs habits, Melchior, Balthazar et Gaspard avaient moins la mine de roi que celle de ces pauvres airs qui formaient au cloître ou au réfectoire des petits frères le voisinage ordinaire de l'artiste. C'est le 27 mai qu'on fit en place de grève justice du nommé Ravaillac. On lui brûla la main qui avait commis le parricide, on le tenailla et on lui coula du plomb fondu et de la poix dans les plaies. Enfin, il fut écartelé en 4 morceaux. Cela n'alla pas sans peine, il fallut qu'un cavalier prêtât sa monture pour remplacer l'un des 4 chevaux qui faiblissait à l'ouvrage. Le peuple, qu'on avait eu peine à contenir, mit après cela le corps en pièces et les Suisses en firent cuire un morceau sous les yeux de la reine. On commenta longuement ces curiosités, à l'intérieur même du couvent, car plus d'un frère y avait assisté. Il était un point seulement dont j'étais plus curieux, savait-on qui avait guidé le bras du régicide? Il a toujours assuré n'avoir eu nul complice et n'avoir été poussé par d'autres causes que le zèle de la religion, me dit le frère François. Il a même reçu l'absolution à condition que ce fût vrai. J'ai entendu dire qu'on l'avait un peu tourmenté. Ce fut vrai les 3 premiers jours, quand il était aux mains du prince et de la compagnie, mais le Parlement a été plus curieux. Il a fait questionner et même laissé interroger par 2 docteurs de la Sorbonne. Sait-on leur nom ? Ce sont messire Gamache et de Filsac. Pourquoi cette question ? Oh, pour rien. En ont-ils tiré quelque chose ? Ah, pas davantage, à ce qu'il paraît. De sorte que les jésuites sont blanchis ? Pas entièrement. Le Parlement les a blâmés et a publiquement condamné un livre du père Mariano. Il s'agit d'un ouvrage politique dont le feu roi s'était plaint voici quelques semaines au général des jésuites lui-même, précisa le frère, voyant mon ignorance. Il défend que c'est justice de tuer un roi qui pervertirait la religion du pays ou y attirerait les huguenots. Ah, les pères ont dû être heureux. Ah, vous pensez, ils ont remué ciel et terre pour faire annuler l'arrêt, le nonce s'est fâché, la régente même a admonesté les présidents. N'empêche que le livre a été brûlé publiquement. Imaginez donc ce que serait maintenant pour eux les preuves dont vous disposiez. C'était là tout ce qui m'intéressait. Le frère François me fixa le lendemain. Le père Coton m'a fait part de ce que son ordre avait pour vos nombreux talents la plus grande estime, et qu'il n'avait de vœux plus chers que de vous voir les exercer dans votre pays avec toute la réserve convenant à votre état. Et comment faut-il entendre en français cette langue jésuite ? Eh bien, on vous laissera en paix tant que vous vous tairez et ne vous ferez point remarquer. Et la peinture ? Il n'en a pas été question, mais on comprend bien que c'est là votre seule assurance et que vous ne vous en défrayez pas. Est-ce tout ? Non, cette parole lie la compagnie, mais elle seule. On m'a bien laissé entendre que d'autres pouvaient avoir à votre endroit des dispositions moins bienveillantes. Vous savez comme moi combien de parties peuvent être mêlées à la mort du roi Henri, sa majesté d'Espagne elle-même. Mais comment se fait-il que les jésuites consentent à me laisser en paix et point les autres que je puis tout autant compromettre ? Cela tient à ce que nous autres, frères mineurs, les avons en retour payés d'un service que tous ne peuvent pas leur rendre. Je vous en rends grâce une fois encore, me direz-vous lequel, qu'en bénissant le nom de votre ordre, je sache tout le prix que je lui dois. Je puis vous en parler, d'autant que vous le saurez bientôt, s'il plaît à Dieu. Les jésuites semblent fort attachés à ouvrir un collège dans votre ville, comme ils l'ont fait déjà d'ailleurs aux Pays-Bas. Ils y sont cependant, m'a-t-on dit, en concurrence avec des Augustins, qui ont déjà l'appui des archiducs et du nonce de sa sainteté le pape Paul V. Nous avons en Namur une assez grande maison, et nous avons promis d'agir activement en faveur des jésuites. Je dois vous avouer que cela nous coûte peu, les Augustins sont mendiants comme nous, et nous ne sommes jamais enchantés de les voir s'établir dans une ville où nous sommes. Je partis donc de Paris au dernier jour de mai. Prenez garde à vous, me dit le frère François. Il s'est passé encore des choses singulières que je viens d'apprendre. On a pendu en grève le cadavre d'un homme. On pend donc les cadavres ? Écoutez-moi donc. Il s'agit d'un nommé Robert, prévôt de Pithiviers. C'était un vieux ligueur, mais pas n'importe lequel. Il avait 2 fils jésuites et avait rendu des services aux gens de la reine. Vous l'avez peut-être vu à Madrid où il allait parfois. Seulement, il était trop bavard et n'avait pu se retenir d'annoncer à ses amis la mort du roi en jouant aux cartes à l'heure précise où on le tuait, mais à 20 lieues de là. Il y avait donc bien complot, et il en était, évidemment. Il était dénoncé et emprisonné, le Parlement devait l'interroger, mais il n'en a pas eu le temps. On l'a retrouvé mort au matin, étranglé par les cordons de ses caleçons. Bigre. Si donc les assassins se défont de ceux des leurs qu'ils jugent dangereux, que ne doivent donc pas craindre les autres. Prenez garde à vous. Je quittais la maison parisienne de M. Saint-François de bien curieuse façon. Après avoir embrassé avec gratitude son supérieur, je me cachais dans la caisse d'un de ces chariots qui amènent de la campagne les montagnes de vivres et de fourrage nécessaires à la subsistance des hommes et des bêtes de la communauté. C'est donc sans rien voir que je traversais ainsi Paris une dernière fois de part en part. De ma cachette, j'entendais le concert étourdissant des cris de la ville, mégères braillant à pleine gorge aux étals, invectives des charretiers, et je pensais à la chanson bien connue que Clément Jeannequin en avait faite 50 ans plus tôt quand il fréquentait la Sorbonne et officiait comme chapelain et musicien du duc de Guise. Cependant, il n'est pour moi rien de plus funeste que de respirer la poussière du foin, et je me mis vite à halter, sentant venir le moment où la crise allait m'étouffer. Je n'en pus bientôt plus, et l'attelage venait à peine de franchir la barrière de l'octroi que je frappais frénétiquement pour qu'on m'ouvrît. Les Parisiens passent pour avoir tout vu et n'être plus touchés par rien ni personne. Ceux qui étaient là tirèrent cependant une drôle de tête quand ils virent une sorte de gros curé émerger de dessous le siège du voiturier comme un diable sortant de sa boîte et se rouler en haletant sur les planches de la charrette. Il se fit vite un attroupement, on détela comme prévu un des chevaux et je m'y hissai, prenant soin qu'on vît dépasser de mon bagage ce qui pouvait ressembler au cadre d'une peinture. Je n'eus que le temps de me sauver avant que n'arrivassent les gens du guet. Je pris vite du champ et me retrouvai sur la grande route de Soissons. C'était là, par Laon, Vervin et Hirson, le plus court chemin vers mon pays. C'est là aussi qu'on me chercherait si l'on me poursuivait, et ma sortie de Paris n'avait pas été marquée précisément par la discrétion. Laissant Paris dans mon dos, ne me retournant que pour voir si l'on ne me suivait pas, je traversai au galop un village nommé Pantin. Je me disais que ce nom ne pouvait mieux convenir à nul autre qu'à moi. Pantin j'étais pour leur brinque-ballant sur la selle de cette forte jument qu'on m'avait donnée. Pantin j'étais dans la vie, jouant malgré moi un drame dont l'argument m'échappait. Je ne pensais qu'à fuir. Chaque lieu qui m'éloignait de Paris rendrait plus difficile la tâche de ceux qui voudraient me chercher. Je calculais que Paris pouvait avoir 4 lieues de tour, ce qui était peu de choses à surveiller, mais que chaque lieu que je parcourais élargissait ce cercle de 6 autres, ce qui ferait vite beaucoup. Je n'avais pas pensé, quand on m'apprenait jadis les rudiments de la géométrie, que j'en tirerais un jour si utile application. Au bout de cette course, il y avait la frontière des Pays-Bas, où je serais en sûreté, du moins un peu plus qu'ici. Il y avait un défaut dans cette logique. Mon calcul eût été vrai si j'avais pu prendre indifféremment les routes de Chartres, Sens ou Pontoise. Il l'était moins si je n'avais qu'un sens de fuite possible, le nord. C'est là peut-être ce que j'aurais dû faire, aller n'importe où, rejoindre mon pays par des chemins inconnus, des détours imprévisibles. Décidément, j'étais un piètre espion. Je me promis de prendre en travers dès que je serais un peu plus loin, de disparaître un temps, en un mot, de rusé. Pour l'heure, ce train d'enfer me rompait le corps. Je n'ai jamais été qu'un piètre cavalier et j'étais ballotté comme un gros sac à chaque pas de ma puissante monture. J'eus d'abord le postérieur meurtri à force d'être jeté ainsi en l'air et de retomber à gauche, à droite, au milieu, au milieu. Puis ces chocs incessants me rompirent l'échine et je sentis 1000 aiguilles se planter douloureusement toujours plus haut dans mon dos. Quand je traversais un bourg, les gens me regardaient avec une perplexité amusée. Quel était donc ce singulier voyageur qui semblait ainsi vouloir courir au bout du monde et menaçait à tout instant de piquer du nez dans la poussière avec armes et bagages? Décidément, je ne passerais pas inaperçu. Après 2 ou 3 heures à ce train, l'éreintement prit le prétexte de la malice. Ne voyant personne alentour, je mis ma bête au pas et pris à gauche, au hasard, une petite route qui me mena dans la campagne jusqu'à un village nommé Montagny. Je mangeai une part de mes provisions et repartis sans tarder, résolu à suivre les allées et sentiers plus discrets qui me sembleraient mener vers le nord. Hélas, le pays devenait plus boisé, et le ciel déjà bien couvert acheva de s'obscurcir, de sorte que je devins de moins en moins sûr de la direction à prendre. J'en avais bien une vague idée, mais les chemins que je prenais semblaient mettre un malin plaisir à m'en éloigner, se détournant brusquement au détour d'un bosquet, du sens où, 100 pas plus tôt, il semblait s'engager résolument, se rétrécissant en descentes impossibles, s'arrêtant même à l'entrée d'un pré ou dans la cour d'une ferme, m'obligeant à faire demi-tour. Mais trois rois voyaient du chemin, branlant contre l'épinette au rythme des dodanes boueux de ce pays dont j'ignorais même le nom. Je n'avançais pas. J'imaginais les poursuivants à mes trousses. Sûrement, ils m'auraient bientôt dépassé. Cette marche m'exaspérait. J'y passais l'après-midi pour arriver, après 1000 détours, non loin de la grande route que j'avais quittée tout à l'heure, et refaire une piteuse entrée dans le bourg même où j'avais dîné. Il n'y avait là nulle auberge, et on m'envoya au refuge d'une grande abbaye proche, du curieux nom de Chahali, perdu dans la forêt à moins de 2 lieues de là. J'étais déjà découragé. L'envie me venait de tout laisser là, de m'ensevelir dans ce désert, moine oublié tous, de mes ennemis, de mes amis, de mes parents. D'ailleurs, qui savait où j'étais? Si je venais à disparaître maintenant, qui s'en inquiéterait? Ma sœur peut-être, mais elle ne savait même pas que j'avais quitté l'Espagne. Mes collègues à la chapelle, ils auraient pour moi une pensée nostalgique, sincère sans doute. Certains feraient remarquer que peut-être j'avais trop joué avec le feu. Puis tous n'auraient de cesse que de se faire attribuer les petits bénéfices que je pouvais avoir, et je m'ajouterais à la longue liste de ceux qui nous avaient quittés déjà. Il y avait aussi cette belle dame de Valladolid, toujours présente en mon esprit au moment d'abattement, mais qu'avais-je été pour elle? Une surprise, éphémère objet d'un jeu un peu pervers, un souvenir aussi bien vite. Je ne restais pas à Chalice et... ce ne fut pas par force d'âme, mais plutôt par faiblesse, car souvent le courage n'est pas là où l'on pense. Le vin du souper avait réveillé bien vite en moi le désir d'une vie faite davantage des autres et de moi-même que de Dieu seul. Je dormis assez bien et repris donc ma course au matin, non sans m'être fait expliquer la route de Soissons. Au matin, je marchais rondement par des chemins où l'on ne voyait personne et qui cependant m'avançaient bien. C'était là précisément ce qu'il me fallait. J'avais retenu le nom des villages où je devais passer, Baron, Frénois, Crépy-en-Valois. Là, les choses se compliquèrent par cela qu'à la fois on entrait dans les bois et qu'on se rapprochait de la grande route que je voulais éviter. J'y arrivais plus vite que je ne l'espérais, la traversais prudemment et poursuivis vers le levant par des chemins forestiers. Je fis ainsi 2 livres et tombai sur une autre route pavée dont j'ignorais d'où elle venait, mais qui ne pouvait assurément être celle de Paris. Il y avait là quelques mouvements, je le suivis vers le nord, bien résolu cette fois à m'arrêter à temps pour passer la nuit dans une auberge. J'arrivai assez vite à l'entrée d'un gros bourg et remarquai une hôtellerie de belle allure dont le pignon s'ornait de massacres de cerfs, signe sans doute que la forêt était giboyeuse et donc la table bien fournie. Je dépassai cette bâtisse, observant attentivement les environs, mais non, rien d'anormal, rien que l'agitation engageante propre à ce genre de maison. Un peu plus loin, à un tournant de la route, je me mis en retrait pour m'assurer, une fois encore, que personne ne me suivait, qu'il ne se faisait derrière moi nul mouvement suspect. Rien non plus d'inquiétant à cet égard. Rassuré, j'allais repartir vers l'auberge quand je repensais aux recommandations du frère François, à ce qu'il m'avait dit de ces 3 rois qui donnaient à ma personne sa trompeuse importance. Et là, sans beaucoup réfléchir, je tirai la peinture de mon bagage, emballée dans le même sac de cuir que l'épinette, et les cachai tous deux sur la fourche d'un arbre. On m'accueillit fort civilement dans l'hôtellerie où je pris un excellent repas propre à me réconcilier avec le genre humain et ses communes pratiques. Le service était lent car il y avait du monde, mais je n'étais nullement pressé et le bon vin m'aidait à patienter, ainsi qu'un petit livre de Madeiros italien retrouvé au fond de mon sac, rescapé de bien des départs impromptus. Une douce griserie me faisait entendre en esprit, rien qu'en les lisant, toutes les finesses des musiques d'Andrea Gabrielli. Fermant les yeux, je voyais le chœur qui les avait chantés, et je n'étais pas loin de reconnaître dans l'harmonie des voix imaginaires le grave chaleureux de Jean Hannon, le beau dessus qu'avait jadis Nicolas. J'étais bien loin de tout ce qui m'entourait, je n'avais pas remarqué qu'à 2 tables de moi se tenait un homme qui m'observait, et qui m'aborda quand je me levai lourdement pour aller goûter d'un sommeil bien mérité. « Monsieur, me dit-il, vous êtes musicien à ce qu'il paraît. Il est rare de voir des voyageurs plonger dans de telles lectures. Peut-on voir ce qui vous captivait tant ?» Surpris, je lui montrai mon livre et le dévisageai tandis qu'il en lisait le titre et feuilletait les premières pages. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, petit, l'œil vif, vêtu comme moi de ces habits noirs et commodes que portent souvent les ecclésiastiques en voyage. « Ah ! Andrea Gabrielli, voilà de l'excellente musique. Me croiriez-vous si je vous dis que je suis assez ami de son neveu Giovanni qui a pris sa place à Venise ?» Je n'étais pas d'humeur à le contrarier et le crus donc volontiers, d'autant qu'il avait une pointe d'accent italien. « Êtes-vous musicien vous-même ?»« Oui et non, je le suis un peu, comme tout le monde dans le pays d'où je viens, » concéda-t-il en riant, « mais je n'en fais pas mon métier. Tenez, voulez-vous que nous parlions un peu de ces deux Gabrielli en prenant le frais dehors ?»« Est-ce que j'ai eu une longue journée. Sans vous offenser, j'aimerais surtout me reposer. Ah, permettez-moi d'insister, il n'est pas si tard. » Je soupirai, mais je ne me sentis pas le courage de résister à un homme aussi cordial et résolu. Curieusement, il m'entraîna au dehors par l'arrière, passant par les cuisines, pour donner aux marmitons un généreux pourboire. Je ne regrettais pas cette petite promenade. Cet homme singulier connaissait en effet son affaire, et il m'apprit mille curiosités sur ces deux Gabrielli qui s'étaient succédés à Saint-Marc. La soirée est agréable et comme on était en ces jours de l'année où les nuits sont plus courtes, la clarté semblait ne devoir jamais disparaître. Mon compagnon d'un soir en était à m'expliquer le goût des Vénitiens pour les drames mis en musique et le succès qu'avait eu l'aîné des Gabrielli avec des chœurs pour l'Œdipe de Sophocle quand soudain des cris terribles retentirent du côté de l'auberge dont nous étions éloignés peut-être de 200 pas. Aussitôt, ce tumulte s'expliqua. Des crépitements éclataient, une épaisse fumée montait à travers les arbres. L'auberge était en feu. Je voulus y courir, mais le petit Italien me retint. « Prenez garde, n'approchez pas, c'est peut-être dangereux. Mais mon bagage est dans ma chambre, et vous-même, oh, n'allons pas risquer notre vie pour quelques affaires. » Nous parvînmes cependant non loin de la maison, ou plutôt du brasier, car les flammes semblaient l'avoir attaqué de toutes parts à la fois, et n'allaient manifestement faire qu'une bouchée de tout ce bois. « Voyez, il est trop tard pour y entrer, » dit-il en esquissant un signe de croix. « De grâce, n'approchez pas, prions plutôt pour ces malheureux. » Et en effet, on voyait aux fenêtres plusieurs personnes surprises par la soudaineté de l'incendie. Elles hurlaient, hésitant à sauter, au risque de se rompre le cou. Alentour, des gens couraient en tous sens, s'agitaient sans pouvoir rien faire. Les pauvres sots qu'on jetait dans la fournaise n'étaient de nul secours. On avait pu ouvrir les portes de l'écurie et les chevaux se sauvaient, fous de terreur. Le mien devait en être. Il n'y avait de calme que quelques cavaliers en armes arrêtés au bord de la chaussée, certains tenant leurs bêtes par la bride. Je ne les avais pas vus tout à l'heure et ils devaient être arrivés après notre sortie. Je remerciais la Providence de m'avoir sauvé d'une mort certaine. Si j'avais suivi mon intuition première, c'est moi qui à cette heure serais à griller dans mon lit. Heureusement, j'avais trouvé sur mon chemin ce curieux homme en noir. Cette rencontre était-elle vraiment due au hasard? Je me retournai brusquement vers lui et vis dans ses yeux qu'il avait suivi mes pensées. « Aviez-vous dans votre bagage des objets de prix ?» me demanda-t-il. Rien de précieux, non, mais des choses auxquelles cependant j'étais attaché. Je ne dis rien du sac que j'avais laissé non loin de là. De l'argent? Non, je le porte sur moi. Alors, si vous m'en croyez, ne vous attardez plus ici. » Le long regard qu'il me porta me dispensa de tergiverser davantage. « Adieu et merci, » dis-je simplement. Je m'éloignai. Me retournant vers le brasier un instant plus tard, je le vis en prière. Il avait fait 3 fois le signe de la croix, à la manière des jésuites. Je récupérai mon sac où je l'avais laissé et m'enfonçai dans la forêt. La nuit était maintenant bien tombée, et je voyais des flamèches s'élever haut dans le ciel d'été. Ne serais-je donc jamais tranquille? J'étais à nouveau un homme traqué, sans nul endroit où aller, comme la nuit où j'avais fui mon hôtel à Paris au lendemain de l'assassinat du roi Henri. Je ne pensais même pas à m'effrayer de la forêt, de ses bruits, des bêtes qui pouvaient m'y guetter. Je repensais à cet homme qui m'avait sauvé la vie, car ce qui s'était passé n'était pas accidentel. Il savait ce qu'allait se passer. Quel besoin avait-il en effet de m'aborder, d'insister pour me mener ainsi au dehors, qui plus est par l'arrière de la maison? et ces hommes en armes qui observaient tranquillement l'incendie, étaient-ils là par hasard? Des larmes de rage et de dépit me montaient aux yeux. Tous ces gens qui brûlaient dans l'incendie mouraient donc à cause de moi. Pour qui me prenait-on donc qu'il faille ainsi pour m'oxyre sacrifier tant d'innocents? Ce petit Italien était un jésuite, certainement, il en avait la façon. Pourquoi m'avait-il éloigné du péril? Son ordre m'avait promis la vie sauve, sans doute, mais cela ne lui faisait pas obligation de me protéger des entreprises de mes autres ennemis. Peut-être voulait-il seulement voir détruire cette malheureuse peinture qu'il accusait et me faire partir les mains vides, devait-il être sa meilleure assurance. Alors sans vouloir, je m'étais joué de lui, doublement même, car je portais encore ces trois rois, faux secrets brûlés quand on le croyait sauvé, et sauvé quand on le croyait brûlé. En était-je quitte pour autant, c'est que cette machine qui me poursuivait était bien puissante. Je pensais avoir pris d'infinies précautions, j'avais suivi des chemins où je me perdais moi-même, et au premier arrêt que je faisais, on me trouvait, en moins de temps qu'il ne fallait pour avaler une terrine, une poularde et trois fillettes de vin d'Anjou. Brisé, je m'assis au pied d'un arbre. J'étais en nage, mais je grelottais bientôt, car mon manteau était resté dans l'auberge. Je m'endormis assez vite, me réveillais souvent, et allais ainsi jusqu'au petit matin, de frissons en mauvais rêve. Quand je me relevai, tout courbaturé, je n'entendis que le chant des oiseaux. Nul bruit d'une route quelconque, nul écho du drame de la veille. J'étais près d'un sentier que je suivis assez longtemps sans savoir où il me mènerait. Je ne craignais plus de tourner en rond, car le temps était clair et un beau soleil m'indiquait le levant. Après une heure ou deux, j'arrivai à un gros ruisseau qui sortit bientôt de la forêt, formant sur sa lisière comme un chapelet d'étang. On voyait une route vers le sud, pas très loin, mais le chemin ne faisait pas mine de la rejoindre. J'arrivai ainsi à un moulin. Une femme lavait du linge au bord de la mare où l'eau stagnait avant d'entraîner la roue. « Hola, bonne femme, criai-je, ne vous effrayez pas. Avez-vous un peu de pain pour un pauvre pèlerin ?»« Le pain est rare, on ne le donne pas aux cheminots. Pouvez-vous payer ?»« Je le puis. » Je m'approchai. Elle regardait ma mise, qui n'était pas celle d'un pèlerin, pas celle non plus d'un vagabond. Mon gros sac semblait l'intriguer. « Ce n'est pas la route habituelle, vous allez à Reims ?»« À Reims, c'est cela, et c'est encore loin, c'est que je me suis un peu perdu. » Je pris un air bonhomme et m'assis sur un muret au bord de l'eau. Elle me donna un pain noir et un morceau de fromage. Je sortis sur le champ une pièce de ma bourse, dont la rotondité sembla éveiller chez elle un sentiment plus hospitalier. Elle lorgnait aussi vers mon gros sac, dont la forme bizarre titillait manifestement sa curiosité. « Excusez-moi de vous servir ainsi, » fit-elle comme gênée, frottant ses mains sur son surcot. « Vous savez, ici, il ne passe jamais personne. » Je me serais garé en venant de l'abbaye de Chalis, de l'autre côté de la forêt. À combien de lieues sommes-nous donc de Reims? 14 ou 15, pour sûr, un peu plus si vous passez par Longpont. Mais qu'y a-t-il là? L'abbaye, bien sûr. Ah, vous faites un drôle de pèlerin. J'ôtai mes chaussures en soupirant et laissai pendre mes pieds dans l'eau fraîche. C'étaient des demi-bottes d'assez bon cuir, plus faites pour le cheval que pour la marche. Depuis Madrid, elle s'était usée à tant de chemins qu'elle commençait à donner de sérieux signes de fatigue. Une des semelles perdait ses clous et le cuir privé de graisse devenait râpé, déchiré même par endroits. Voyant mon souci, l'hôtesse me proposa de les confier à son mari, qui s'y entendait, à ce qu'il paraissait, en cordonnerie. « Votre homme est donc savetier ? Ah, il est ce qu'on veut, meunier, charretier ou savetier. Pour l'heure, il est dans la forêt, à charbonner. » « Dans nos pays, il vaut mieux être agile des doigts que de la cervelle. »« Ah, s'il ne me prend pas trop cher, je veux bien. Quand donc sera-t-il là ? Ah, pas avant ce soir. » Je la voyais venir. Plus je resterais, meilleur profit on tirerait de moi. En vrai dire, cela m'arrangeait assez, et je me voyais bien rester un jour ou deux dans un trou écarté comme celui-là, le temps qu'on perde pour de bon ma trace, s'il en devait rester. Je passais donc là le reste de la journée à ne rien faire, ce qui me fut doux. Vers les 6 heures, le mari rentra, noir comme le charbon qu'il avait fait, pour le reste poilu jusqu'aux yeux, l'air dégourdi, fin comme moutarde. Je me dis que si cet homme était aussi meunier, son intérêt pour l'heure était de travailler le seigle plutôt que le blé, car la blanche farine en aurait été vite noircie. Après avoir consulté sa femme, il prit mes choses d'un air dubitatif. Manifestement, à le voir, seul un miracle pouvait les sauver du rebut, ou, à la rigueur, le tour de main d'un maître du métier, mais, en l'occurrence, le seul maître alentour ne pourrait régler l'affaire si promptement qu'on pût la conclure le soir même. qu'à cela me tienne, je serai chez lui mieux logé qu'à Lompon et pour moins cher. On pensa me faire coucher dans la grange, mais je laissai entendre que cela ne valait rien pour ma santé, et pour un supplément, on chassa de leur couche pour me la donner les 2 ou 3 mioches que comptait le ménage. Au souper, le maître des lieux dit à sa femme que l'auberge de Villers-Cotterêts avait brûlé. On en parlait alentour, car il était mort du monde, et on ne s'expliquait pas que le feu ait pris partout à la fois. « Ah, c'est donc ça, cette lueur que les enfants ont vue à la vêprée. Vous n'avez rien remarqué ?» me demanda-t-elle, « vous qui êtes arrivé de par là ?» Je pris l'air poli de celui qui compatit au malheur d'autrui. « Ah, rien du tout, c'est que j'ai le sommeil lourd. D'ailleurs, je ne crois pas y être passé. Villers, dites-vous. Non, cela ne me dit rien. Comme je vous ai dit, j'ai un peu tourné en rond. C'est bien malheureux, ce que vous racontez là. On a donc pu maîtriser l'incendie ? Ah, pensez, tout était en bois, c'était inutile. » D'ailleurs, il passait là une troupe de soldats qui n'ont même rien fait pour l'éteindre. Ils se sont contentés de retourner les ruines pour en sortir les morts. Et il y en eut beaucoup, 4 ou 5, à ce qu'on m'a dit, et si bien grillés qu'on les a enterrés sur place sans même les reconnaître. Je me signais, ne pouvant du moins m'empêcher de penser que brûler pour brûler, mieux valait que ces pauvres gens le fussent pour de bon et qu'on pût me croire en leur nombre. Avant d'aller dormir, je m'enquis des chemins des environs. On n'était qu'à 3 bonnes lieues de Soissons, qui se trouvaient sur mon chemin le plus court, à mi-distance entre Paris et les Pays-Bas. Par prudence, je résolus cependant d'aller jusqu'à Reims, en bon pèlerin que j'étais. Je dormis mal cette nuit-là. À la lisière de la veillée et du sommeil, dans cette brume d'idées dont on ne sait ce qu'elles doivent encore à l'imaginaire ou déjà au réel, je me voyais saisi au collet par ces hommes d'armes qui m'avaient quitté à Villers-Cotterêts, emmené nu-pied sans même ces chaussures qui m'avaient retenu ici. Mon meunier était allé me dénoncer, il m'avait percé un jour, et sa mine chafouine était réjouie de l'aubaine des écus qu'on lui avait donnée pour sa peine. Cette inquiétude était vaine. Je repartis au lendemain, mieux chaussé que je n'étais arrivé, par le chemin qu'on m'indiqua et qui était assez facile. Je n'y fis nulle mauvaise rencontre et fus à Reims en 2 jours. Je craignais un peu d'entrer dans cette ville, mais on était jour de marché et il se pressait tant de monde aux portes qu'on ne fit nulle attention à moi. Je restai là 2 jours encore, logeant dans une petite auberge, ne me montrant guère. Peut-être ces précautions étaient-elles vaines, car si d'aventure on me cherchait encore, sans doute passerais-je davantage inaperçu dans la foule d'une grande ville que seul dans les campagnes. J'allais à la cathédrale Notre-Dame, où l'on sacre les rois de France. Sans doute un jour prochain, le petit Louis viendrait-il à son tour y recevoir l'onction. Louis, 13e du nom, 3e roi que je connus en ce royaume dans le cours de ma vie. Dans tous les beaux seigneurs qui se presseraient sous les statues de la Vierge et l'ange gardien de Saint-Nicaise, combien se trouverait-il de ces méchants qui avaient hâté son règne? Je fis aussi quelques achats pour remplacer le bagage que j'avais perdu dans l'incendie, un manteau, un sac plus commode, quelques vêtements.